Ce matin, on rencontre Samson. On se tourne vers Samson, on est dans le livre des juges. Samson, c'est un personnage fascinant, troublant par moments. C'est un personnage inspirant. En tout cas, il a inspiré les arts, les beaux-arts. Tout à l'heure, on va voir quelques tableaux, quelques sculptures qui ont été inspirées par ce personnage-là. Mais c'est quelqu'un de plus grand que nature, n'est-ce pas? On doit dire ça. Et on a intitulé la prédication « Un Samson sommeille en toi ». On va voir ensemble qu'est-ce qu'on va apprendre avec ce Samson-là ce matin. Et donc, on va aller dans la lecture des Écritures. Ce matin, la lecture va être un petit peu moins longue que la semaine dernière, mais quand même, on va lire une bonne partie, puisqu'on va suivre Samson de sa naissance à sa mort. C'est couvert par 4 chapitres dans le livre des juges. Alors, on va lire différentes portions ce matin. Vous pouvez suivre dans votre Bible ou tout simplement suivre à l'écran. Et on va écouter ensemble la lecture de la parole de Dieu.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré du livre de Juges, au chapitre 13, versets 1 à 7, au chapitre 14, versets 1 à 7, au chapitre 16, versets 1 à 31, dans l'édition Louis II. Donc, on va commencer par Juges, au chapitre 13, versets 1 à 7. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile, et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde et ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à l'Éternel dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Chapitre 14, versets 1 à 7. Samson descendit à Timna, et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout le peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? » Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vient à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevron. Il ne dit point à sa mère et à son père ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut.
Simplement pour vous donner un résumé avant d'aller au chapitre 16, Samson va aller pour célébrer son mariage, et puis il va s'inspirer avec un certain orgueil de ce premier événement où l'Esprit de Dieu est venu sur lui, puis il a été saisi d'une force extraordinaire. Il va lancer une énigme aux gens qui assistent à son mariage, une énigme qui n'était pas vraiment résoluble. Et à ce moment-là, il va être trompé par son épouse qui va venir l'interroger, puis qui va le dénoncer, dans le fond, qui va donner la clé de l'énigme. Et là, on va voir Samson réagir avec violence, aller se venger un peu de tout ce qui s'est passé là et s'en prendre même aux Philistins. Et on a quelques-uns des premiers exploits de Samson où il va aller jusqu'à tuer de sa propre main 1000 hommes par la puissance de l'Esprit de Dieu qui est sur lui. Et on arrive ensuite au chapitre 16.
Chapitre 16, versets 1 à 31. Samson partit pour Gaza, et il vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, « Samson est arrivé ici. » Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, « Au point du jour, nous le tuerons. » Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux et les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta jusqu'au sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek, elle se nommait Delila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 sicles d'argent. » Dalila dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? » Samson lui dit, « Si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Dalila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson! » Et il rompit les cordes comme se rend un cordon d'étoupe quand il sent le feu, et l'on ne connut point d'où venait sa force. Dalila dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un homme, comme un autre homme. » Dalila prit des cordes neuves avec laquelle elle le lia. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'ils avaient au bras. Dalila dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par les chevilles, la cheville, puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, « Comment peux-tu me dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et lui dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter, et il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Il disait, « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Et quand le peuple vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, ils dirent, « Qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. » Ils firent encore sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois, et qu'un d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins! » Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'ils avaient tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'il fut remonté, ils l'enterrèrent entre Tiroa et Estaol dans le sépulcre de Manoac, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans.
On va dire un mot de prière. Père éternel, on assiste dans ce récit un personnage, Seigneur, qui, qui est surréel. Par la puissance de ton esprit, Seigneur, il fait des choses qu'aucun homme ne peut faire par lui-même. Et pourtant, Seigneur, on voit en lui un homme qui aurait besoin encore davantage de ton esprit. Je te prie, Père, de venir parler à nos cœurs ce matin, de nous apprendre à marcher dans tes voies, tout près de toi. Je te prie, Père, de remplir mon cœur de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, Seigneur, afin que ta parole soit prêchée avec puissance et avec vérité. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Retournez avec moi au chapitre 13, s'il vous plaît. Au début du chapitre 13, puis on va s'arrêter quelques instants sur une idée qui revient à plusieurs reprises dans le livre des juges, d'accord? Il y a une déclaration qui est là au début du chapitre 13, verset 1. « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. » Regardez la traduction dite à la colombe. On a une autre traduction dite à la colombe, et j'aimerais ça qu'on puisse l'afficher. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Alors, dépendamment de votre traduction, il y a cette idée de déplaire à l'Éternel ou de faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et ici, il y a cette question-là qui est posée, qui est constante à travers le livre des juges et qui est constante dans notre société, qui devrait l'être dans nos cœurs à nous aussi. Mal aux yeux de qui? Qui est juge de ce qui est bien et de ce qui est mal? Le livre des juges nous dit ici qu'Israël a décidé, en d'autres mots, de faire ce qui lui semblait bien, a décidé de faire ce qui lui plaisait, a décidé de faire ce qui était peut-être bien à ses propres yeux. Qui est juge du bien et du mal? C'est une question qui est constamment présente dans notre société. La réponse généralement qu'on entend, qui est juge de ce qui est bien et de ce qui est mal, c'est quoi? Moi! C'est moi qui juge de ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est moi qui peux déterminer cela. Après tout, si Dieu existe, est-ce qu'il ne m'a pas donné une intelligence pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal? Qu'il y ait un Dieu ou qu'il n'y en ait pas, j'ai une intelligence, j'ai le discernement pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, qui va donner la définition du péché, du bien et du mal? Est-ce que vraiment on peut construire une société sur cette notion-là qui revient à chacun de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal? Est-ce que vous pensez que Hitler a fait ce qui était bien à ses yeux? Moi, je crois que oui. Je crois que Hitler a fait ce qu'il croyait être bien à ses yeux. Il était en train de faire un ménage. Donc, qui est juge? Dans deux semaines, on va faire ensemble, on va commencer une série de 10 semaines sur les 10 commandements. Ça, c'est fatigant pour le cœur humain. Des commandements, des lois, la loi de Dieu. Ce qu'on trouve ici dans le livre des juges, c'est que Dieu est celui qui définit ce qui est bien et ce qui est mal. C'est lui qui détermine le bien. Et la faute d'Israël ici, c'est d'avoir fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Maintenant, Israël a décidé de faire ce qui est bien à leurs yeux. Et dans cette vie-là, dans cette période-là du livre des juges, tout particulièrement, on découvre un aspect pernicieux, un aspect subversif du péché. Israël a décidé de faire ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, mais ce qui était probablement bien selon leur jugement, ce qui leur plaisait à tout le moins. Et le péché a un pouvoir de séduction. Une fois j'y vais, une deuxième fois j'y vais, une troisième fois je finis par me croire et me prendre au sérieux. Et j'aimerais ça attirer votre attention sur le cycle du livre des juges, mais spécialement à ce moment-là. Il y a quelque chose de différent dans l'histoire de Samson avec le cycle qu'on trouve dans le livre des juges. Il y a quelque chose de différent. On a vu avec Stéphane Tessier, puis la semaine dernière, ce cycle qui se répète à plusieurs reprises. Peut-être qu'on peut l'afficher en avant, s'il vous plaît. Mais dans ce cycle-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dieu conduit son peuple dans la liberté. Et à plusieurs reprises, le cycle va se répéter où ils vont se détourner de Dieu, chercher ce qui leur plaît. Et puis, ils vont se tourner vers des idoles, des peuples environnants, aller traiter des alliances avec eux, aller se livrer au culte idolâtre vers ces idoles. Ceci va les conduire dans la servitude parce que Dieu va se retirer d'eux. Dieu va les livrer à eux-mêmes, va les livrer aux nations vers lesquelles ils se sont tournés. Et donc, ils vont être dominés par ces nations-là. Ils vont sombrer dans la servitude. Ça va devenir extrêmement dur à vivre, très lourd à vivre. Et ils vont se mettre à crier à Dieu. Et là, le peuple d'Israël crie à l'Éternel, appelle au secours de la part de l'Éternel, et Dieu va susciter un libérateur. À plusieurs reprises, le cycle se répète, Dieu va susciter un libérateur qui va les conduire vers la liberté. Il va y avoir une période de repentance souvent, pas toujours, comme on a vu sous Gédéon. Et comme on l'a dit la semaine dernière, ce cycle-là est représentatif souvent aussi de notre marche spirituelle à nous aussi. On a tendance à reproduire ce cycle-là de nombreuses reprises. Maintenant, dans ce récit-là, lorsque vous avez écouté la lecture, tout ça, est-ce que vous avez remarqué quelque chose par rapport au cycle? Il n'y a aucun cri à Dieu. Il n'y a aucun cri à Dieu. Le peuple d'Israël se détourne de Dieu, s'en va dans l'idolâtrie, Dieu se retire d'eux, ils sont dominés par les Philistins. Mais savez-vous quoi? On peut s'y plaire, en fin de compte, dans le péché. Ça peut devenir confortable, cette affaire-là. Et jamais sous Samson, le peuple d'Israël va crier à l'Éternel pour être libéré. On ne se rend jamais là dans le cycle. Il n'y a jamais de cri vers l'Éternel à aucun moment dans leur histoire. Et Dieu va devoir intervenir malgré eux. Parce que le péché peut devenir extrêmement confortable. On le voit au fait qu'il ne crie pas à Dieu, premièrement. Deuxièmement, un peu plus loin dans le récit, si vous regardez avec moi au chapitre 15, verset 11, on peut l'afficher ici à l'avant, ils ne veulent pas véritablement être délivrés. Quand Dieu va susciter un libérateur, ils ne veulent pas vraiment être délivrés. Juges 15, verset 11 et 12, sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam où était allé se cacher Samson et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? » « Oui, je m'en viens vous libérer. »« Que nous as-tu donc fait? » Et il leur répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Et Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils ne veulent pas être libérés. Ils sont assez bien, finalement, sous la domination des Philistins parce que leur style de vie ressemble de plus en plus au style de vie des Philistins. Ils ont adopté leur style de vie idolâtre, assez confortable là, et ils n'ont pas le goût d'être libérés. Un autre indice qu'on a qui est important, c'est qu'ils voyagent facilement en toute liberté vers la capitale des Philistins. Samson entre là en toute liberté, il va se déplacer, il va aller là-bas. Alors, voyez-vous, lorsqu'on regarde ce cycle-là dans le livre des Juges, on peut être instruit pour notre vie spirituelle, personnelle. Ce cycle-là a tendance à se répéter dans nos propres vies, d'accord? Mais il est possible aussi qu'à travers ce cycle-là, finalement, on devienne assez confortable là-dedans. Et on adopte ce style de vie où il y a des idoles dans nos cœurs qui dominent nos cœurs, puis ça ne nous dérange plus tant que ça. Et peut-être que c'est là que tu es. Peut-être que c'est là que tu es. Tu dis, je connais la parole de Dieu, je sais ce que Dieu attend de moi. Je l'ai tassé de ma vie dans différents domaines. Je suis retourné des fois vers des idoles de mon cœur, de ma vie passée. Puis je sais que je ne suis pas à la bonne place, mais ça fait même plus mal d'être là. Je suis finalement assez confortable dans mon péché. Je suis assez confortable dans mon péché. Est-ce que c'est là que tu es actuellement? On peut faire un bon bout de chemin là-dessus. Peut-être qu'on peut allouer ça à la grâce de Dieu qui ne nous châtie pas toujours selon ce qu'on mérite. Et s'il le faisait plus vite, peut-être qu'on rentrait plus vite à la maison. Il fait serrer. Mais le péché peut devenir confortable et ton style de vie peut devenir une simple façade. Tu te présentes le dimanche matin pour ne pas te faire poser trop de questions si tu t'absentes, pour ne pas trop être dérangé. Puis tu te dis, bof, j'allais chercher ma petite shot. Puis tu pars d'ici, puis ça prend juste le temps de rentrer dans l'auto, puis touc, la cassette a changé. Tu retournes à ton mode de vie pour le reste de la semaine. Puis t'es bien là-dedans. T'es bien là-dedans. On va voir ensemble que Dieu est tellement gracieux, que bien souvent, il vient nous sauver malgré nous. Mais je ne sais pas, peut-être que c'est là que tu es actuellement. Et donc, Dieu va faire une intervention miraculeuse. Juges 13, versets 3 à 5, par une naissance miraculeuse, Dieu va intervenir dans la vie d'Israël. On lit donc au verset 3, Juges 13, 3. « Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Israël n'a pas crié à Dieu, ils n'ont pas demandé l'aide de Dieu, ils se sont fondus dans cette foule-là, ils vivent allègrement sous cette domination-là, mais Dieu intervient de manière miraculeuse, et donc cette femme qui était stérile, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, un ange de l'Éternel vient et lui annonce, « Je sais que tu ne peux pas en avoir, Dieu va intervenir, tu vas tomber enceinte, un fils va naître. » Et retenez ça à l'esprit, une naissance miraculeuse vient pour commencer cette délivrance-là, cette libération-là. Mais il y a quelque chose d'autre qui est mentionné par rapport à ce fils-là qui va naître. Il va être consacré à l'Éternel dès sa naissance. Et ce à quoi il est fait allusion ici, c'est le vœu de Naziréa, d'accord? Et c'était une pratique qui existait à l'époque où ça pouvait se faire avant même la naissance d'un individu, mais ça pouvait être un moment aussi dans ta vie où tu décidais de te consacrer d'une manière particulière à l'Éternel. Tu faisais vœu de te priver de certaines choses. Par exemple, un homme aurait pu décider de ne pas se marier pour se consacrer uniquement au service de Dieu. Bien souvent, le vœu commençait avec cette coutume, cette tradition de se raser la tête une première fois pour se consacrer. Et comme un signe extérieur après, la tête n'était plus rasée, on laissait les cheveux pousser, tout simplement pour dire « J'ai fait un vœu devant l'Éternel, je suis consacré à Dieu. » Souvent, c'était pour une période de leur vie, en relation avec toutes sortes de requêtes à Dieu, des choses qu'ils voulaient, peut-être un acte de repentance, toutes sortes de circonstances. Dans ce cas-ci, l'ange dit à la mère, ton fils va être consacré à Dieu dès sa naissance. Par conséquent, ça implique qu'il va s'abstenir de ceci, de cela. Et donc, il y avait différentes règles. Entre autres, quelqu'un qui avait fait le vœu de Naziréa ne pouvait pas entrer dans la présence d'un mort, d'un cadavre, d'accord? Parce qu'il était consacré d'une manière pure à Dieu et la mort représente cette malédiction de la part de Dieu qui vient sur tous les hommes. Et donc, il était consacré, il ne devait pas le faire, il ne devait pas toucher à une bête morte non plus, d'accord? C'était tous des symboles qui représentaient cette consécration à celui qui est trois fois saint. Samson est consacré dès sa naissance et doit marcher dans un style de vie qui va illustrer par toutes sortes de signes extérieurs cette sainteté, cette consécration. Si vous connaissez Samson, vous êtes déjà en train de rire dans votre barbe, d'accord? Peut-être que vous n'avez pas de barbe, mais vous êtes en train de rire. Parce que ce n'est pas vraiment ça le genre de vie de Samson. Mais en principe, cet homme-là devait être consacré à l'Éternel. Et l'ange dit à cette mère en devenir, il lui dit, c'est lui qui va commencer. C'est lui qui va commencer à délivrer Israël, son peuple, malgré lui. Dieu va œuvrer à travers Samson pour venir les sauver malgré eux. Qui est Samson? Tantôt, je l'ai dit au début du message, avant la lecture des Écritures, Samson a inspiré, on a toutes sortes d'images ici, j'aimerais qu'on ait cette toile de Rubens, mais Samson a inspiré les beaux-arts. Si vous faites des recherches sur Internet, vous allez trouver toutes sortes d'images, de sculptures. C'est une figure impressionnante. On l'imagine super musclé. C'est pas clair, tu sais. Peut-être que c'était un chicot puis c'était surprenant. Mais c'était une bête lorsqu'il attaquait. Alors, on l'a imaginé comme ça, en train de se battre contre le lion. Rubens, une toile de Rubens, une autre pièce encore. On a des sculptures aussi, même plus récentes, si on peut juste les défiler rapidement. Alors ça ici, c'est intéressant, c'est une sculpture qu'on trouve à Ashdod, qui est une ville qui était une ville des Philistins. Et donc, ils ont cette sculpture-là, là-bas, pour représenter Samson qui est en train de faire tomber le temple de Dagon, où se trouvait à la fin de sa vie, où il se trouvait prisonnier, et il a pu ainsi éliminer une partie de l'élite qui de leurs ennemis des Philistins. Une prochaine image aussi, s'il vous plaît. On a ici une toile du 19e siècle, Karl Bloch, qui nous montre Samson, justement, qui est prisonnier, donc qui est utilisé pour travailler. Et progressivement, ses cheveux sont en train de repousser. Il va retrouver, par une intervention, un miracle de Dieu, cette force qu'il y a en lui. Donc, ce personnage-là est inspirant parce qu'il nous parle de force. Il nous parle de puissance. Je m'entraîne avec mon garçon 3 fois par semaine, puis une fois de temps en temps, on prend nos mensurations, puis on regarde les transformations. Puis quand tu penses à Samson, tu penses à Hercule, des personnages de la mythologie grecque. Tu penses à cette force, à cette espèce de fougue qui dit « Quoi? Tu m'as provoqué, je m'en viens! » Maintenant, qui est Samson? Le titre du message, c'est « Un Samson sommeille en toi ». Qui est Samson en vérité? Qui est-ce qu'il est? Quelques-uns des aspects de ce personnage-là, assez étrange, parce que Dieu va donner à Israël un héros à sa ressemblance. Samson est un homme que Dieu utilise, mais en réalité qui cherche constamment ce qui lui plaît. Et ce qui est dit au début du chapitre concernant Israël en entier représente Samson. Je veux dire, vous lisez son histoire, puis c'était un être profondément impulsif, orgueilleux, violent comme ça se peut pas. C'était un homme à femme, évidemment, c'est évident dans toute son histoire. C'est un homme qui avait des pulsions sexuelles incroyables, puis qui avait tous les moyens pour les assouvir. C'est un homme qui était conduit par ses pulsions, par ses passions, au point de devenir complètement déraisonnable dans cette relation avec Delilah où il voit bien qu'il est en train de jouer avec lui, mais il entre dans ce jeu-là. Aujourd'hui, on parlerait d'une relation de dépendance affective profonde. Dieu donne à Israël un héros à sa ressemblance. Et c'est un des aspects qu'on voit à travers le livre des juges. Je l'ai déjà mentionné, mais on voit cette idée d'un cycle, d'accord, qui se répète. Mais en réalité, c'est une spirale descendante à laquelle on assiste à travers le livre. Et plus on avance dans le livre, plus les juges, les héros qui sont donnés à Israël pour les libérer, plus ils ressemblent au peuple lui-même. Et moins ils sont impressionnants, plus moralement ils sont discutables comme personnages. Et c'est ça qu'on voit avec Samson ici. Dieu va donner à Israël un héros à sa ressemblance parce que Dieu fait ceci. Dieu nous sauve souvent malgré nous. Lorsqu'on essaie de comprendre la grâce de Dieu, notre réflexe à nous, c'est de considérer que la grâce est méritée. C'est parce que je suis quelqu'un de bien que Dieu est venu vers moi. Dieu s'est manifesté à moi dans un moment où je le cherchais. Non, le moment où tu as commencé à le chercher, c'est parce qu'il avait commencé à se manifester à toi. C'est juste que tu ne l'avais pas saisi. Personne ne cherche Dieu de lui-même. Ce n'est pas vrai, ça. Il n'y en a pas un ici qui a été sauvé parce que, à quelque part, au plus profond de lui-même, il méritait un petit peu plus la grâce de Dieu. Ce n'est pas vrai, ça. Il n'y en a pas un ici qui était framé, qui avait été constitué pour être comme plus prédisposé à accepter l'amour de Christ. Nous sommes tous également déchus et pécheurs par nature. Cette nature, tous les hommes l'ont. Et si vous en doutez, faites des enfants. Ça ne sera pas long, vous n'aurez plus de doute là-dessus. Mais donc, Dieu va venir sauver Israël par pure grâce malgré eux. Dieu va les sauver malgré eux. Et en fait, ce qui est confondant dans le passage ici, c'est pourquoi Dieu se sert de Samson? Pourquoi Dieu se sert d'un bozo comme ça? C'est ça qui est troublant dans le texte. Regardez avec moi, probablement le verset le plus troublant, puis en même temps, vraiment la clé pour comprendre tout le ministère, toute l'œuvre de Samson. Dans Juges 14, verset 4. Samson voit une femme, fille des Philistins, puis il dit, c'est celle-là que je veux. Elle me plaît. Là, ses parents commencent à discuter avec lui, puis ils disent, c'est parce qu'en principe, on n'est pas supposé faire ça. Ouais, mais il dit, c'est elle que j'aime. Puis Samson fait quelque chose de grave pour l'époque. Hein. Il méprise complètement le conseil de ses parents. C'était vraiment quelque chose à l'époque, ce qu'il fait ici. Mais au verset 4, il y a un verset qui est troublant. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire que Samson péchait, était charnel et ça venait de Dieu. Clairement, dans les Écritures, Dieu ne pêche pas, Dieu ne nous incite pas au péché, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Si Dieu était l'auteur du mal, il ne serait plus Dieu, il ne serait plus saint. Mais voici ce que je comprends dans ce passage-là, c'est que Dieu a laissé Samson suivre les dispositions de son cœur. Et dans ce sens-là, Dieu est souverain et Dieu va laisser suivre cette inclinaison-là. Et Dieu va se servir d'un homme qui est rebelle pour éventuellement manifester sa gloire. Voir si Dieu n'a pas fait ça à plusieurs reprises dans ta propre vie. Parce que c'est quand même ça la vraie question aussi. Comment Dieu peut se servir d'une personne comme toi pour manifester sa gloire, une personne comme moi? Si on veut être honnête, c'est vrai qu'il y a un Samson qui sommeille en chacun de nous, qui veut utiliser les ressources de Dieu pour suivre ses propres passions, ses propres pulsions. Et Dieu, dans sa souveraineté, va laisser Samson aller vers son vice parce que Dieu ne veut pas, écoutez bien ceci, c'est super important, Dieu ne veut pas que ce confort, que cette paix superficielle qui existe où il n'y a plus de distinction entre son peuple et le monde, continue. Dieu va susciter à travers Samson un conflit qui n'existe pas. Israël, à ce moment-ci de son histoire, est dominé par les Philistins et ils sont confortables là-dedans. Israël connaît Dieu, connaît la parole de Dieu, connaît la sainteté de Dieu. Israël sait pourquoi l'être humain a été créé, pour être bon, pour être saint, pour être juste, pour être amour. Israël sait ça. Mais est entré dans un style de vie où finalement il n'y a plus de distinction entre eux et les Philistins, entre eux et les peuples idolâtres environnants. Il n'y en a pas de conflit, on est bien là-dedans. Et Dieu va se servir du vice de Samson pour générer, pour créer ce conflit-là. Si tu appartiens à Dieu, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, si tu es confortable dans le péché, à un certain moment donné, Dieu va susciter des choses autour de toi. Ça ne se peut pas que l'Église de Jésus-Christ soit parfaitement aimée, en harmonie parfaite avec le monde environnant. Ça ne se peut pas. Lorsque ça se produit, c'est que le monde environnant a complètement avalé l'Église. Et l'Église n'existe plus. Une belle citation ici de Michael Wilcock. « Une coexistence harmonieuse entre l'Église et le monde n'est pas possible. S'il n'y a plus de conflit, c'est que le monde a absorbé l'Église. » La vérité, c'est que si dans ton style de vie, tu es aussi confortable avec n'importe quoi qui se passe à la télé, chez les gens autour de toi, dans leur style de vie, puis tu te dis, « Tableau, man, moi, je fade dedans au bout, je rentre là-dedans, je suis bien là-dedans. » Mais il y a deux options. Il y a deux options. Tu as vraiment éteint l'Esprit de Dieu. La mèche est allumée, il y a quelque chose qui va exploser. Ça ne sera pas bien long. Ou tu n'es pas chrétien. Tu ne connais pas Dieu. Parce que si tu connais Dieu, tu veux marcher selon Dieu. Et l'Église va toujours être commandée d'aimer le monde, d'aimer les gens, d'aller vers eux, de ne pas se retirer, mais d'aller les aimer, d'être constamment vers eux, de comprendre, d'aimer, d'aller vers eux constamment. Puis en même temps, l'Église est appelée à marcher d'une manière tellement différente afin de briller et de refléter Dieu auprès de cette société-là. Mais on arrive à ce moment dans l'histoire d'Israël où il n'y en a plus de conflits. Israël est en parfaite symbiose avec la société dans laquelle elle vit, parfaitement en harmonie, pas offensée du tout par le péché qu'il y a là. Il n'y a plus de distinction entre les deux. Et ça se voit simplement au héros qui va être là pour les libérer. Je veux dire, vous regardez les méthodes des Philistins, vous regardez les méthodes de Samson, c'est un pour un, c'est une lutte d'orgueil, c'est une histoire de vengeance, c'est une histoire de conflit entre les deux. C'est tout ce qui se passe ici. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va se servir Dieu va se servir du péché de Samson pour générer ce conflit-là. Et le conflit va éclater. Et plus on avance à travers le récit, plus le conflit va éclater. Et le début de la libération va intervenir, va apparaître à ce moment-là. Lorsqu'on essaie de comprendre la grâce de Dieu, l'erreur qu'on fait souvent, lorsqu'on veut connaître Dieu, connaître sa grâce, c'est de mettre Dieu dans une boîte. Ah, j'ai compris Dieu. J'ai compris comment sa grâce intervient. Le moment où vous faites ça, vous savez que vous ne comprenez pas Dieu. Vous ne pourrez jamais mettre Dieu dans une boîte. Regardez autour de vous les gens qui vous ont parlé du Seigneur, les gens qui ont continué à marcher, comment est-ce que Dieu vous a attiré. Dieu est tellement surprenant. Tellement surprenant. Parce que c'est ça la grâce de Dieu. Parce que c'est ça la grâce de Dieu. Dieu va intervenir à travers des fautes qu'on va faire, à travers des péchés, et Dieu va faire jaillir de ça sa grâce. Parce que par définition, la grâce, c'est quelque chose qui apparaît à travers les ruines. Faire grâce, c'est faire du bien là où il n'y a pas de mérite. Alors, une parole d'encouragement pour toi. Si tu dis que ta vie est complètement en ruine actuellement, tu es exactement au bon endroit pour que la grâce de Dieu commence à se manifester. Dieu, c'est l'expert des cas sinistres. C'est l'expert des cas sinistres. Et Dieu intervient, Dieu génère, suscite ce conflit-là pour brasser Israël et leur dire « Non, vous ne pouvez pas vivre comme ce peuple-là. Vous êtes rendu trop confortable dans votre péché. Et s'il le faut, je vais me servir d'un homme retors, tordu, impulsif, orgueilleux. Je vais livrer à son vice. Le conflit va naître. Et je vais vous sortir de là. Je vais vous sortir de là parce que telle est ma grâce. Elle est surprenante. Constamment, il nous surprend par sa grâce. » Je vais faire un autre commentaire aussi qui est important. Parce qu'on retrouve cette même idée-là dans le Nouveau Testament. Une des questions qu'on se pose lorsqu'on lit l'histoire de Samson, on dit « Oui, mais Dieu a choisi Samson avant même sa naissance, une naissance miraculeuse, puis l'Esprit de Dieu vient sur Samson. » Comment Dieu peut se servir d'un homme, que son esprit vienne sur lui, avec un homme qui est aussi pécheur et rebelle que ça? Et on trouve exactement la même idée dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Corinthiens, par exemple, lorsque Paul fait une distinction importante entre les dons du Saint-Esprit et le fruit de l'Esprit. C'est possible pour un chrétien d'avoir des dons spirituels comme Samson avait l'Esprit de Dieu qui venait sur lui pour lui donner des victoires incroyables, et d'avoir ces dons-là et de s'en servir d'une manière charnelle. Dans 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 3, voici ce qu'on lit. C'est Paul qui parle et qui dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Dans Galates, toujours Paul qui dit, Galates 5, 22, 23, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Vous avez peut-être connu des gens qui étaient des surdoués spirituels. Ils ont marché pour Dieu, prêchaient la parole, toutes sortes de choses, annonçaient l'Évangile. Boy, tu sais, tu les entends annoncer l'Évangile, tu te dis, je ne serais jamais capable de faire ça comme ça. C'est extraordinaire. Vous avez entendu des histoires avec des pasteurs qui tombent dans des scandales incroyables. Puis certains d'entre nous, même, on les connaissait assez, on était assez près d'eux pour dire, « Oui, mais il me semble vraiment que c'est un chrétien. » C'était comme, c'est trop vrai son affaire. Mais à quelque part dans la course, la personne a commencé à se prendre au sérieux et prendre les dons que Dieu lui avait donnés, les dons spirituels et des talents, et les a pris pour servir ses propres pulsions, ses propres passions. Au lieu d'humblement chercher la gloire de Dieu en toute chose et laisser l'Esprit de Dieu produire constamment ce fruit-là, qui est l'amour, l'humilité, la joie, la patience, la bonté. Alors, non seulement c'est possible que tu sois engagé dans ce cycle-là et que tu ne réalises pas finalement que tu es dans le péché parce que ça ne fait pas si mal d'y être, mais en plus de ça, ça se peut que tu aies de l'air énormément spirituel là-dedans. Ça se peut que les gens autour de toi disent « Boy, il est tellement, ah, Dieu se sert de lui. » Certains, Dieu s'est servi de Samson, il peut se servir de toi. Ça n'annonce pas nécessairement grand-chose de bon juste parce que tu sais prêcher avec puissance, parce que lorsque tu ouvres la bouche, c'est édifiant, parce que lorsque toi, tu pries, Dieu répond à tes prières, parce que tu es une personne de foi, parce que tu es une personne qui comprend toute la théologie. Ça ne garantit aucunement que tu marches dans la plénitude de l'Esprit, parce que Dieu peut te donner des dons spirituels et tu peux t'en servir charnellement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour éviter cela? Éviter que cette bénédiction que Dieu a donnée à Samson, que Dieu nous donne, devienne notre pierre d'achoppement, notre occasion de chute, la source même de notre orgueil. Il faut premièrement marcher près de Dieu. Voyez-vous, il y a un des éléments qui est frappant avec Samson. On a deux prières de Samson dans tout son récit. La première, c'est une prière tellement orgueilleuse. Il vient de mettre à mort 1000 Philistins, puis là, il a une petite soif, puis il dit à Dieu, « C'est ça! Oh, c'est ça! Tu vas me laisser mourir de soif maintenant! » C'est à ça que ça lui servait, la prière. Et il y a une deuxième prière. Soyez bien attentifs à la fin du récit. Mais la prière pour aller constamment dans la présence de Dieu, puis dire, « Seigneur, rappelez-vous cette prière que je vous ai mentionnée la semaine dernière encore. Seigneur, accorde-moi la grâce de la repentance. » Accorde-moi la grâce de voir mes péchés, de les confesser, de demeurer humble devant toi, de voir que tout ce qu'il y a de grand et de beau que je peux réaliser, c'est par ta puissance que je peux le faire. Et donc, je veux porter en moi non seulement ces dons spirituels et ces talents, mais je veux vivre dans la plénitude de ton esprit, rempli du fruit de l'esprit, de cette humilité, de cette douceur. Et un autre élément, c'est chercher la communion avec les frères et sœurs qui vont avoir ce regard-là sur ma vie. Samson est un lone ranger. Il est tout seul dans son coin. Il marche seul. Il n'a pas besoin de conseils. Quand ses parents lui donnent des conseils, rien à faire de leurs conseils. C'est un homme qui est fort par lui-même. Et à un certain moment donné, il ne réalisera même pas qu'il est rendu tout seul aussi, ne réalisant pas que l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Alors, comment éviter de prendre ces bénédictions, les transformer dans une occasion de chute pour nos cœurs? Chercher à marcher dans la prière, rester tout près de Dieu, grandir sans cesse dans cette vie-là, reconnaître dans mon cœur la distinction entre les dons spirituels et le fruit de l'Esprit. Parce que le fruit de l'Esprit, lui, tu ne peux pas le jouer, celui-là. Il se trouve dans cet endroit où quotidiennement je vais dans la présence de Dieu puis je dis, Seigneur, par moi-même, je demeure charnel. Et c'est vrai, Seigneur, que je peux tout par celui qui me fortifie. Par celui qui me fortifie, j'ai besoin de toi maintenant à cet instant. J'ai besoin de me rappeler que sans toi, je ne peux rien faire. Alors, qui est ce Samson, ce héros que Dieu a envoyé pour se glorifier? Parce que Dieu peut se glorifier à travers la stupidité. On peut le faire à travers nous aussi, des fois même dans notre faiblesse. Mais c'est un homme qui cherche ce qui lui plaît. C'est un homme affamé, c'est un homme impulsif, c'est un homme violent, c'est un homme orgueilleux, c'est un homme qui brise son vœu de Naziréa à plusieurs reprises. En fin de compte, c'est un homme qui ressemble énormément au peuple qu'il haït. Il les juge et il est pareil comme eux à bien des égards. On a donné comme thème à la série « Selfie » comme titre. Si vous n'avez pas saisi ça, on va vous en montrer quelques-uns, s'il vous plaît, des selfies. Il y a des statistiques qui disent qu'il y a 17 millions de photos d'autoportraits qui sont ajoutées sur le web à chaque semaine. 17 millions de photos qui sont prises où tout ce que je veux, c'est être au centre de la photo. Ça parle de moi, « me, myself and I ». Un selfie, c'est ça, d'accord? Où tout ce que je veux, c'est être là et que ça parle de moi. Et c'est intéressant, il y a des articles dans les journaux qui parle de cette tendance. Cette tendance où anciennement les photos, c'était là pour raconter mon histoire et me rappeler les places où je suis allé, les gens que j'ai rencontrés, les amitiés que j'ai eues. Et de plus en plus, avec cette pratique-là, la photo devient une occasion de me donner une image, de prendre un petit peu de prestance. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des photos de moi, je vais les publier sur ma page Facebook et tout ce qui m'intéresse, c'est les commentaires. Parce que j'ai besoin de cet input-là, qu'on m'en donne un petit peu plus, qu'on vienne juste m'injecter un petit peu de confiance en moi. Un peu plus de moi au centre. Un peu plus de moi au centre de la photo. Samson avait été choisi par Dieu. Samson avait été mis à part avant même sa naissance. Samson a vu l'Esprit de Dieu venir sur lui pour lui donner une puissance incroyable. Mais au centre de son selfie, il y a juste de la place pour lui, 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 lui. Et il n'y a aucune place pour Dieu dans cette photo-là. Il n'y a aucune place pour Dieu. Et tout ce que Dieu lui a donné de bon, il l'a pris pour lui-même. Tout ce que Dieu lui a donné de bon, il l'a pris pour lui-même, pour se mettre au centre de sa vie. Alors, je vous repose la même question que la semaine dernière. Est-ce que Dieu fait office de figurant dans ta vie? Et est-ce que tout ce que Dieu t'a donné, la santé, l'intelligence, les ressources financières, le temps, une histoire familiale qui t'avantage peut-être sur bien d'autres personnes, mais plus encore spirituellement, des dons spirituels pour le servir, pour le glorifier, est-ce que toutes ces choses-là sont devenues dans ta vie, dans ton cœur, une occasion de chute pour toi? Et t'as tassé Dieu de l'écran, puis t'as dit, c'est moi qui est là. Parce que ça, là, c'est ma force à moi. Tout ce que je fais, c'est ma force à moi. Salomon va être conduit, et Samson va être conduit dans une relation super mauvaise avec Delilah. C'est incroyable à quel point il se prend au sérieux. Il sait là où se trouve son secret. Dieu lui a donné, puis c'est pas de la magie, Dieu a donné comme un symbole physique qui allait confirmer toujours sa consécration à l'Éternel, c'était ses cheveux, comme j'ai dit. Et voyez-vous l'aspect addictif du péché, l'aspect subversif du péché, à quel point c'est trompeur et on en vient à même plus se voir, plutôt on se croit et on se prend au sérieux. Samson va dire le secret à Delilah. Il dit « Rase-moi la tête, j'ai pas de puissance. » Et au moment où il se réveille, il est convaincu qu'il va battre encore les Philistins. Il est rendu à un endroit où inconsciemment, probablement, il dit, « Même si Dieu m'abandonne, je vais encore être capable de les battre. » Et Dieu, dans sa grâce, va briser ce héros-là. Parce qu'enfin, enfin, à la fin de son histoire, nous allons voir un véritable héros apparaître lorsqu'il va être brisé. J'aimerais demander aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. Dieu va briser cet homme-là. Les Philistins vont s'emparer de lui, lui crever les yeux, l'humilier profondément. Et Samson va réaliser que Dieu l'a quitté. Il s'en était même pas rendu compte. Et ça se peut que ça te prenne du temps. Hein? Le moment où il n'y a plus rien que tu fais dans toutes tes journées qui vient de l'Esprit de Dieu, mais c'est charnel, tu avances par toi-même. Ça se peut que tu prennes du temps. Tu fais un bon bout, là. Puis à un moment donné, tu te dis, mais Dieu est rendu là-bas. Puis moi, je suis ici. Et c'est ça qui se passe ici avec Samson. Il est brisé, il est livré aux Philistins, il devient prisonnier à ce moment-là. Les Philistins. Et c'est à ce moment-là que Samson commence à être glorieux, vraiment. Parce qu'il va se tourner vers Dieu dans la prière. Il va se tourner vers Dieu dans la prière et il va dire, « Dieu, j'ai besoin que tu sois avec moi une dernière fois. » Une dernière fois. Et on assiste à ce moment-là au sacrifice de sa vie. Ce n'est pas encore un homme profondément sage. Il y a toute une dimension de vengeance personnelle dans tout cela. Mais Samson va sacrifier sa vie en faisant tomber ce temple à Dagon où était réunie l'élite des Philistins. Et donc, par son propre sacrifice, il va commencer à délivrer son peuple. Par son propre sacrifice, il va commencer à délivrer son peuple. Et bien des siècles plus tard, un autre enfant va venir par une naissance miraculeuse. On trouve ça dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, verset 20. Voici ce qu'on lit alors qu'un ange apparaît à Joseph pour lui annoncer que l'enfant qui va naître de sa future épouse, de sa fiancée Marie, vient bel et bien de Dieu. Voici ce qu'on lit dans Matthieu 1, 20. « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Bien des siècles après le sacrifice de Samson, allait naître un autre fils miraculeusement conçu, celui-là, par l'Esprit de Dieu. Et celui-là allait venir délivrer Israël, non pas de ses ennemis extérieurs, mais ce Jésus-là est le seul qui peut te délivrer du Samson qui sommeille en toi. Parce que ce Samson-là, il est en chacun de nous. On est tous menacés de commencer à se prendre au sérieux, devenir indépendants à l'égard de Dieu, penser que la victoire repose sur nos propres forces, et quitter, oublier que c'est par pure grâce de Dieu que nous sommes ses enfants et qu'on peut marcher dans ses voies. C'est seulement par sa grâce. Alors c'est sous son regard que je veux marcher. C'est sous le regard de Christ. Israël a cherché à faire ce qui plaisait à ses propres yeux. Moi, je veux marcher en cherchant à faire ce qui plaît aux yeux de l'Éternel. C'est l'apôtre Paul qui dit, dans 1 Corinthiens 4, « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Apprenons à marcher sous le regard de Dieu en nous appuyant sur la puissance et la grâce de Jésus-Christ afin de jamais laisser en nous se réveiller ce Samson-là indépendant vers Dieu qui sommeille en chacun de nous, mais en laissant Dieu faire de nous des hommes et des femmes puissants par sa grâce. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, c'est le propre du cœur humain de prendre tes grâces, tes bénédictions et d'en faire des idoles, en faire des idoles du cœur qui viennent prendre ta place. C'est le propre de nos cœurs, Seigneur, de prendre ce que tu nous donnes comme ressource, comme talent, comme opportunité, comme don spirituel et de les ramener à nous-mêmes, Seigneur, et de faire comme Samson, qui s'est appuyé sur lui-même, se prenant au sérieux, se livrant à ses pulsions. Et parfois, Seigneur, tu viens de glorifier à travers nos bêtises, à travers nos péchés. C'est un mystère de ta grâce que tu agisses ainsi, Seigneur. Mais Seigneur Jésus, ô Seigneur Jésus, enseigne-nous que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Enseigne-nous, Seigneur, que nous avons constamment besoin de ton esprit qui nous parle, Seigneur. Viens et parle-nous encore, Seigneur, dans ce moment de louange ensemble. C'est en Jésus que nous prions.